Bon réveil à celles et ceux qui nous rejoignent. Il est 7h15 secondes. C'est bon, au taquet.
Au taquet.
Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.
Eh ben dans ce cas, on attaque avec le flash présenté par Guillaume Abbé. Bonjour Guillaume.
Bonjour. Yvorne, grandeur nature, entend transformer les 500 parcelles de l'appellation en modèle de développement durable, respectueuse de la nature, de sa flore, de sa faune et de ses habitants. Imaginé en 2018, puis maturé gentiment, ce projet va de l'avant, ont assuré hier face aux médias ses concepteurs. La plupart des quelques 150 vignerons d'Yvorne entrent peu à peu dans cette démarche qui se veut progressive, mais contraignante, avec un cahier des charges contenant 22 mesures. Une démarche qui bénéficie du soutien financier de la Fondation Mava et des experts de la Haute École de Viniculture et d'Œnologie de Changin, laquelle assure tout le côté scientifique et technique du projet. Comprenez qu'il y a un gros travail de recherche et de développement entre Yvorne et Changin, ce que nous confirme le directeur de la Haute École, Conrad Briguet.
Alors effectivement, dans le sens où ce projet est innovant par le fait qu'il introduit une mesure de la biodiversité au départ et une mesure qui se fera dans quelques années pour voir si véritablement la diversité biologique a augmenté. Et nous allons progresser ensemble avec les viticulteurs.
De votre point de vue, aujourd'hui, c'est un projet qui peut facilement essaimer dans notre pays?
C'est l'idée finale, si on veut, mais il faut d'abord réussir à Yvorne. Donc ça, c'est le premier défi. Et le deuxième, une fois que ce sera fait, on l'espère, c'est que ça puisse intéresser d'autres appellations et finalement tout le secteur.
Des propos recueillis par Yves Terrani. Globalement, dans le cadre d'Yvorne Grandeur Nature, il ne s'agit pas uniquement de cultiver en mode bio, mais bien de tenir compte de l'entier de l'écosystème qui entoure le vignoble, des forêts aux cours d'eau, des animaux aux humains. Le théâtre du Crochetan de Monté accueille demain le spectacle Anthropologie 13.ch. Cette pièce marque la fin de la formation de 13 comédiens à l'école supérieure de théâtre Les Teinturiers à Lausanne. De jeunes valaisannes Aline Bonvin et Joséphine Thur font partie de cette volée de diplômés qui ont dû composer avec la pandémie un défi de plus pour les arts de la scène. Elles sont heureuses de pouvoir présenter leur spectacle, plus particulièrement à Monté, dans leur canton, car cette pièce est intimement liée à leurs origines. Aline Bonvin revient sur l'appellation de ce spectacle Anthropologie 13.ch.
On a travaillé avec un chorégraphe et un anthropologue, c'est-à-dire que l'anthropologie, c'est l'étude de l'homme dans la société, de ses comportements, de ses habitudes. Et du coup, on s'est intéressé à nous, en tant que jeunes Suisses, quelles sont nos racines, nos souvenirs d'enfance, notre paysage d'enfance, notre terroir familial finalement. Qu'est-ce que nos souvenirs sont rattachés à des lieux, à des fois à un chêne, à une vigne. Et tout ça est expliqué dans le spectacle. C'est 13 monologues qui se déroulent et les uns et les unes après les autres, on raconte nos souvenirs d'enfance. Et puis 13 parce qu'on est 13 comédiens, comédiennes et .ch parce que ça questionne beaucoup la Suisse. Est-ce qu'on se sent Suisse? De quelle Suisse on vient? On débat, on s'amuse et on fait la fête à nos souvenirs et à l'endroit d'où l'on vient, à nos racines.
Des propos recueillis par Martine Vistiner. Les hommes qui sont au service militaire continueront de toucher une allocation perte de gain supérieure à l'allocation du congé maternité. Une très courte majorité du Conseil des États a maintenu l'écart entre l'allocation maximale qui est de 245 francs par jour à l'armée et de 196 francs quotidiens à la maternité. Les raisons de cette inégalité, elles sont historiques. Les femmes avaient dû faire des concessions pour obtenir le congé maternité et la majorité bourgeoise estime qu'il n'est pas nécessaire d'inclure dans l'indemnité de maternité un montant pour la garde d'enfants prévu dans l'allocation militaire. La conseillère aux États libérales radicales fribourgeoises Johanna Gapani a voté pour une allocation égalitaire.
Cette inégalité de traitement n'a pas de raison d'être, d'autant plus avec les montants dont on parle. Et que ce serait souhaitable, au vu de l'égalité qui est en train de prendre de plus en plus de terrain, qu'il fallait maintenant rétablir aussi une égalité au niveau des montants qui sont perçus. Aujourd'hui, on tend de plus en plus à avoir une égalité entre les hommes et les femmes. À terme, il y aura sans aucun doute un engagement qui sera souhaité autant pour les hommes que pour les femmes dans le cadre du service militaire ou d'un service citoyen que j'appelle de mes voeux. Et dans le même sens, on aura un congé parental. Et donc, on a tout intérêt à dessiner maintenant déjà des assurances qui traitent sur un pied d'égalité les hommes et les femmes.
Et pour recueillir par notre correspondant parlementaire Serge Jubin, à retenir que toutes les femmes du Conseil des États ont voté pour une allocation égalitaire, mais une majorité d'hommes des partis bourgeois n'en ont pas voulu. C'est la voix du président PLR Glaronnais, Thomas Hefti, qui a fait capoter le projet. En mars 2021, le Conseil national avait largement voté pour l'égalité des allocations de maternité et militaire. Relever l'allocation maximale du congé maternité aurait coûté 260 millions de francs de plus aux APG. On reste à Berne. Les constructions hors zone à bâtir doivent être mieux réglementées. Le Conseil des États débat ce matin d'une nouvelle étape de l'aménagement du territoire. Une révision de loi devrait être privilégiée à l'initiative populaire contre le bétonnage du paysage. Le Conseil national débat aujourd'hui aussi sur l'instauration d'une task force pour enquêter sur les avoirs des oligarques russes et biélorusses en Suisse et de la surveillance du négoce de matières premières. La gauche l'exige à travers deux motions. Le PS veut même aller plus loin et souhaite ensuite bloquer, voire confisquer ses fonds. À l'étranger, le geste inexpliqué d'un chauffeur de 29 ans qui a foncé sur des passants hier a causé la mort d'une enseignante et blessé plusieurs élèves. Ces derniers se trouvaient en voyage scolaire à Berlin. Les Russes se sont montrés bien moins efficaces qu'attendus dans l'emploi des cyberoffensives. C'est ce qu'ont constaté plusieurs chefs européens des forces militaires de cyberdéfense hier au Forum international de la cybersécurité de Lille en France. Nous étions assez sûrs qu'il y aurait un cyber Pearl Harbor pour accompagner l'offensive en Ukraine, a estimé le général Karol Molenda, le commandant des forces polonaises de cyberdéfense. Et le ton monte dans le dossier nucléaire iranien. Les États-Unis et les Européens ont fait adopter hier à l'AIEA une résolution rappelant formellement à l'ordre Téhéran sur fond d'impasse des négociations pour sauver l'accord de 2015. En guise de riposte, la République islamique avait débranché des caméras de surveillance installées justement par l'Agence internationale de l'énergie atomique. On passe au sport de la Formule E au championnat du monde d'endurance. C'est la transition qu'effectue Sébastien Buemi cette semaine encore à Jakarta le week-end dernier pour l'IPRI. L'Aiglon a rejoint la France pour prendre part aux 24 heures du Mans qui se tiendront samedi. Habitué à jouer sur les deux tableaux, le Chablaisien reconnaît que parfois les calendriers sont difficiles à gérer. Sébastien Buemi.
Oui, c'est vrai que bon, c'est pas forcément tout le temps facile de devoir passer d'une voiture à l'autre en très peu de temps. Voilà, malheureusement, les calendriers faisaient qu'il n'y avait pas beaucoup de temps entre deux. J'ai quand même pu participer hier à la journée test ici au Mans. Donc c'est une journée le dimanche d'avant où tout le monde peut rouler, faire des tours. Donc ça, c'est important pour moi que je puisse rouler. Et puis, j'ai tellement l'habitude de la voiture, de la piste. Voilà, c'est moins difficile que par le passé de passer d'une voiture à l'autre.
Sébastien Buemi répondait à Julien Traxel. L'Aiglon sera donc au départ samedi des 24 heures du Mans. L'épreuve tricolore qui fêtera son siècle d'existence l'an prochain réunira 62 véhicules.